Regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, et dans cette étude, nous débutons dans le chapitre 9, ayant vu la dernière fois la différence et les contrastes entre l'ancienne alliance et la nouvelle, et nous pouvons dire que ces contrastes continuent ici dans le chapitre 9, mais mon texte pour cette étude est à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, et nous allons considérer davantage les caractéristiques de l'ancienne alliance décrite ici par l'auteur aux Hébreux. Peut-être on peut se poser la question, mais pourquoi tant d'attention est donnée à comprendre l'ancienne alliance, surtout que l'alliance a été déjà accomplie. Mais il faut se rappeler que cette épître est écrite aux Hébreux, c'est-à-dire les Juifs. C'était des gens qui ont grandi avec une grande connaissance de l'Ancien Testament, comme c'est décrit ici, cela en contraste avec nous autres qui peut-être ne sont pas de cette postérité juive. Nous avons peut-être une certaine connaissance puisque nous lisons la Bible, mais il nous faut comprendre surtout jusqu'à quel point l'Ancien Testament est accompli et comment le tabernacle avec ses meubles, en effet, sont une image de Jésus-Christ et de son œuvre de rédemption et de justification des pécheurs devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons le bilan et tout se passait sous forme d'image et de type. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Et c'est en cela que nous voyons l'unité de toute la Bible. Nous ne déchirons pas l'Ancien Testament de nos Bibles pour dire, bon, c'est fini, donc on n'en a plus besoin. Nous continuons à étudier, comme nous faisons ici, à voir ces comparaisons et ces contrastes, surtout en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Donc, dans mon texte ici, dans Hébreux, chapitre 9, du verset 1 au verset 10, nous avons ces caractéristiques de l'ancienne alliance décrite et le tabernacle avec son mobilier. Chaque détail a sa signification en ce qui concerne la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà en cela, nous trouvons notre joie. Donc, dans le verset 1, nous lisons « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc nous voyons comment l'Esprit dirigeait l'auteur ici de cette épître, de simplement résumer les mobiliers qui existait dans le tabernacle, afin de pouvoir avancer davantage à son accomplissement. Et si on avait le temps, on allait en effet étudier et lire tout ce chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 28, parce que en cela nous voyons l'ensemble, mais le temps nous manque, donc nous allons découper ce chapitre en partie dans nos études. Et comme l'auteur dit ici, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. On pouvait retourner en arrière, surtout dans la loi, où toutes ces instructions ont été données à Moïse dans le livre d'Exode, à partir du verset du chapitre 25 du livre d'Exode, allant jusqu'au livre de Nombre. Tous ces détails qui sont donnés, ça fait toute une étude. Mais nous sommes en train de voir la somme, le point capital ici, comme l'auteur disait au début du chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est écrit dans le verset 6 du chapitre 9 d'Hébreux. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et voilà le mot clé ici dans le verset 9. C'est une figure, on peut dire, c'est une image, un type pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Peut-être on peut se demander, mais qui continuait à offrir de tels sacrifices? C'était les Juifs. Quoiqu'à la mort de Christ au calvaire, le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas, puisque Christ était dans sa mort l'accomplissement de tous ces sacrifices de l'Ancien Testament. Néanmoins, dans leur incrédulité, dans leur aveuglement, les chefs religieux des Juifs continuaient à offrir ces sacrifices. Mais comme l'auteur dit ici dans le verset 9, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui continuent à offrir, mais qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, selon la chair, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et cette époque de réformation est décrite comme ayant déjà accompli dans la venue du Seigneur Jésus-Christ, comme c'est écrit dans le verset 11. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment, dans l'histoire, parler de l'époque de réformation qui s'est passée dans les années 1500. Mais ici, il s'agit de ce qui était accompli à la croix. Voilà la véritable époque de réformation. Et c'est cela que nous devons comprendre. Alors, voyons dans les 5 premiers versets d'abord les détails qui nous sont donnés ici au sujet du tabernacle, de l'ancienne alliance et de son mobilier. Tout cela a pour but, premièrement, de nous démontrer la prééminence du Seigneur Jésus-Christ en rapport avec cet ancien tabernacle et ses mobiliers et ses sacerdoces et les sacrifices. Tout était déjà accompli en Christ. C'est deuxièmement pour montrer comment tout ce qui est passé avant, surtout dans l'ancienne alliance, cette alliance des Lévites, n'était que des types et des images, ou bien comme le verset 9 nous dit, une figure du Seigneur Jésus-Christ. Une figure ou bien une image n'a pas en elle-même une puissance. C'est comme si j'avais ici, par exemple, une image d'un morceau de pain. On peut bien voir l'image que c'est un morceau de pain, mais ça ne peut pas nourrir quelqu'un qui est affamé. Il faut le véritable pain. Et voilà ce que l'auteur est en train de démontrer. Aussi longtemps que les gens veulent retourner encore sous l'ancienne alliance et adorer à travers ces types et ces images, rien en cela ne pouvait sauver leur âme. Rien en cela ne pouvait rendre parfait, comme c'est dit dans le verset 9. Le verset 9 est vraiment un verset clé de transition ici. Et donc, troisièmement, ce qui est écrit ici, c'est pour nous montrer la fin de ces cérémonies lévitiques que l'auteur appelle ici des ordonnances charnelles et les sacrifices qui existait sous la première alliance. C'est la fin, comme l'auteur indique dans Hébreux chapitre 10 et le verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Et quoi? Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Mais pour mieux comprendre l'image, nous allons, dans cette étude, reprendre ce qui est écrit ici, commençant par le tabernacle lui-même dans le verset 2. C'est écrit, un tabernacle fut en effet construit. Pourquoi c'était nécessaire que ce tabernacle soit construit, surtout sur la terre? Encore, c'est une image du Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu depuis les temps éternels, mais qui a dû venir ici sur la terre en corps et en chair afin d'offrir son sang, d'offrir sa vie comme une offrande expiatoire à Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Donc, c'était nécessaire que Christ vienne en chair et qu'il donne sa vie pour l'accomplissement de tout ce qui était nécessaire par rapport à la loi et la justice de Dieu. C'est ce que Jean, dans son évangile, chapitre 1, nous indique, la nécessité que Christ soit venu dans la chair. Il y en a qui ignorent cela et ils pensent que le Seigneur Jésus-Christ était un ange que Dieu a créé et qu'il est venu maintenant pour faire ce qu'il a fait. Il y a d'autres qui traitent Christ de fantôme, qui n'était pas réellement chair de notre chair et os de notre os. Mais voilà pourquoi la nécessité de comprendre le tabernacle qui s'était construit sur la terre en image du Seigneur Jésus-Christ qui est venu ici dans Jean chapitre 1, en parlant de Christ. C'est écrit dans le premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc cet homme qui marchait sur cette terre, en corps et en chair, n'était autre que Dieu lui-même dans la chair, comme c'est écrit dans le verset 14 du même chapitre de Jean, Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Dans le grec, ce mot « habiter », c'est le mot « tabernacler ». Donc, exactement comme c'est écrit ici qu'un tabernacle fut en effet construit en Jésus-Christ, un tabernacle fut préparé. Les mesures de ce tabernacle, quand on lit surtout dans l'Ancien Testament, étaient aussi données. Précisément, le tabernacle était une tente faite de peau d'animaux. Et ça devait être de 15 mètres de long. Et puis, 5 mètres de large, si on pouvait imaginer ces mesures dans nos pensées. Et puis encore 5 mètres de haut. Donc il ne faut pas penser à une très grande tente, mais exactement les mesures que Dieu lui-même a prescrites. Quand les gens voyaient le tabernacle de loin, il n'y avait rien d'impressionnant parce que ça a été fait de peau d'animaux. Et même les mesures, je dois dire que les bâtiments que les gens construisent aujourd'hui pour leur lieu de culte, les gens sont fiers de construire des grands immobiliers. Mais ici, Dieu a ordonné à ce que ça soit une tente simple. Ça représente la personne du Seigneur Jésus-Christ, comme Isaïe l'a dit dans Isaïe chapitre 53, que en regardant Christ, il n'y avait rien en lui, de point de vue de beauté, à tirer les regards sur lui. Surtout dans Isaïe chapitre 53, c'est écrit dans le verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc en pensant surtout au tabernacle, voilà une tente très simple. Et Dieu a ordonné ainsi parce que ça représentait la simplicité qui est en Jésus-Christ, qui est venu pas pour attirer les regards sur lui, mais pour servir de sacrifice, de sacerdoce à son Père. C'est écrit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est comme ça, quand nous lisons ici, un tabernacle fut en effet construit. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, dans ce tabernacle résidait toute la gloire de Dieu, exactement comme en Jésus-Christ, toute la gloire de Dieu était en lui. Donc les mesures sont significative dans le fait que c'était selon les précisions exactes que Dieu a données, et c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de faire attention de la manière qu'il construisait ce tabernacle, parce que ça servait l'image du tabernacle céleste, c'est-à-dire que Christ qui est aux cieux. Et puis, comme nous lisons ici, dans le verset 2, il y avait deux parties. ce tabernacle était divisé en deux pièces. Dans la partie intérieure appelée le lieu saint, la plus grande pièce, c'était la première partie, est appelée ici un lieu saint. Et encore, si on retournait dans l'Ancien Testament, on pouvait voir que ce lieu saint était de 5 mètres et par 10 mètres. Voilà la largeur et longueur de cette première chambre dans le tabernacle. Toujours 5 mètres d'eau, mais aussi 5 mètres de largeur et 10 mètres de profondeur. Ça nous montre que de tout le long de ce tabernacle qui était 15 mètres de long, 10 mètres, les 3/4 de cette distance était occupée par cette première partie. Et puis, il y avait un voile qui séparait la première pièce de la dernière, la deuxième, et derrière le voile qui se trouvait entre cette première pièce, le lieu très saint, ou le lieu saint, était, encore dans le verset 3, un voile qui séparait cette partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Alors tout cela est significatif. Et dans chaque partie, en fait, il y avait en réalité trois parties du tabernacle, parce qu'il y a aussi la cour qui était devant le tabernacle, qui faisait partie aussi de ce tabernacle, mais ce n'est pas mentionné ici. Mais, dans le verset 2, dans la première partie, quand c'est écrit le lieu saint par rapport au lieu très saint, il n'y a pas de degré de sainteté. Tout signifie la sainteté de Dieu. Mais quand il s'agit du lieu très saint, c'est parce que ça représentait là où Dieu lui-même résidait, la présence de Dieu dans le lieu très saint. Mais tout représentait la sainteté de Dieu. Donc dans la première chambre, la première partie, appelée la partie intérieure, le lieu saint, il y avait 3 mobiliers. Il y avait le chandelier et il y avait, surtout il y avait le chandelier et la table, ensuite les pains de proposition. Il faut dire que dans cette première partie, ce n'est pas mentionné ici dans ce verset, mais plus tard, c'est mentionné concernant l'autel de parfum dans le verset 4, renfermant l'autel d'or pour les parfums qui était tout près du voile qui séparait la première partie de la seconde. Mais le chandelier était un cadre pour les lampes du tabernacle. Et il y avait une tige médiane avec 6 branches qui se tenaient dans la première partie. Et puis, au milieu, il y avait une lampe et puis les 6 parties de l'autre côté. Et c'était d'une taille indéterminée. Nous ne sommes pas donné cette précision dans les Écritures, mais ça a été fait d'or pur. Et le but, c'était de fournir une lampe pour l'intérieur du tabernacle. Comme nous avons déjà indiqué, chaque partie représentait en quelque sorte le Seigneur Jésus-Christ parce que dans le tabernacle, il n'y avait pas de fenêtre à l'intérieur. Alors, ce chandelier représentait l'unique lumière qui existait. Et ainsi, nous voyons la comparaison avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, bien sûr, mais surtout la lumière de son peuple. Alors, il y avait 7 lampes en particulier qui faisaient partie de ce chandelier, et le numéro 7 dans les Écritures, c'est le chiffre de perfection. Donc en cela, ça représente la perfection de Jésus-Christ comme lumière pure. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. On ne peut pas connaître Dieu. Et c'est la lumière que l'Esprit de Christ fait briller dans les cœurs de son peuple qui leur donne la véritable révélation de Christ. Et puis, après le chandelier est mentionné la table, c'est écrit « et les pains de proposition ». Encore cette table, surtout dans Exode chapitre 25, si on avait le temps de regarder là, mais cette table était assise dans la première partie, et c'était une table faite de bois d'acacia, recouvert d'or. Acacia était un bois dur, qui durait, c'était pas facile de détruire, et ce bois était couvert d'or. Voilà, dans cette table, une représentation et de la nature humaine du Seigneur Jésus-Christ comme un bois qui sort de la terre et qui est coupé pour faire fabriquer cette table, mais couvert d'or, ce qui représente la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et encore, ici, il ne faut pas imaginez une longue table. Quand on lit dans Exode chapitre 25, c'était une table qui était en effet un demi-mètre de large, si on pouvait imaginer un demi-mètre, et puis de long, c'était même pas un mètre, c'était les 3/4 d'un mètre de long. Voilà la largeur de cette table. Et encore, si c'était à l'homme, on allait dire, mais on va fabriquer une table comme dans un palais. Mais, en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, ça représente sa personne et qui il est en venant dans cette chair. Et en relatant ça encore à Ésaïe chapitre 53, il n'y avait pas de beauté en lui pour attirer le regard. Si les pécheurs sont venus à Christ, ce n'était pas à cause de sa beauté physique, mais plutôt son esprit qui les attirait. C'est pourquoi les gens se moquaient de lui lorsqu'il le regardait et Christ leur déclarait qu'il était le Fils de Dieu, mais ils étaient étonnés de l'entendre. Ça dépassait leur compréhension. Donc Dieu l'a voulu ainsi, que ça soit une simple table. Mais sur la table, ça contenait 12, ce qui est appelé ici pain de proposition, c'est-à-dire exposé et placé sur cette table, ces 12 pains, ça représentait chaque tribu des enfants d'Israël, et donc chaque pain est une représentation du corps de Christ, et 12 représentant le peuple que Christ est venu représenter. Dans cette table, nous voyons la simplicité de Christ dans sa personne, mais ces pains de proposition représentaient le peuple pour qui il est le pain de vie et pour qui il est venu donner sa vie. Et comme je disais, dans cette partie intérieure appelée le saint lieu ou le lieu saint, il y avait aussi, pour sauter le verset 3 pour moi et aller jusqu'au verset 4, il y a ici ce qui est appelé l'autel d'or pour les parfums. Cet autel doré était aussi fait de bois d'acacia, comme la table, recouvert d'or, et encore, à peu près le même taille de la table des pains de proposition, un demi-mètre du côté, et un peu plus long, en longueur de la table, à peu près un mètre. Vous voyez? Tout cela est précisé dans Exode chapitre 30. Et cela se tenait au voile devant le Saint des Saints et était utilisé pour brûler de l'encens que Dieu a donné des précisions exactement comment cet encens, ce parfum devait être fabriqué. Nous rappelons que les fils d'Aaron ont un jour décidé d'entrer et offrir de l'encens étrange devant Dieu qui n'était pas conforme à ce que Dieu avait précisé et il les a tués là devant l'autel de l'encens. Mais cet autel, l'encens, représente l'intercession du Seigneur Jésus-Christ devant le Père. Et l'odeur qui montait et qui remplissait l'intérieur de ce tabernacle représente l'intercession du Seigneur Christ à l'égard de ce peuple pour qui il est venu dans le monde. Et heureusement, nous avons en Jésus-Christ notre intercession devant Dieu. Et puis, dans la deuxième partie, comme c'est écrit dans le verset 3, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et là-dedans, il y avait l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Donc, ça faisait deux parties de cette arche de l'Alliance. Il y avait au-dessus l'arche, ce qu'on appelle le propitiatoire, c'était fait entièrement en or. Et puis, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, c'était une boîte. C'est là que c'était écrit, se trouvait la manne, et puis la verge d'Aaron, qui avait fleuri et les tables de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements. On peut peut-être se demander pourquoi ces 3 éléments qui se trouvaient à l'intérieur de cette arche. Il faut dire que chaque objet représentait la rébellion du peuple d'Israël, surtout la manne. Les enfants de Dieu se sont révoltés contre la manne comme la seule nourriture lorsqu'ils étaient dans le désert. Et la verge d'Aaron représentait la rébellion des enfants d'Israël contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et puis les tablettes de l'Alliance, c'est-à-dire la loi de Dieu, rappelée à Israël leur échec à l'égard de ces 10 commandements et le reste de la loi. Alors c'était nécessaire que ces objets soient retenu dans cette arche de l'Alliance, dans cette boîte, qui était aussi fabriquée du bois couvert d'or, au-dessus de laquelle était maintenant la couverture, ou bien le propitiatoire. Et une fois par an, c'est là que le souverain sacrateur, seulement une fois par an, devait rentrer avec le sang des taureaux et des boucs qui ont été immolés et asperger cette arche d'alliance, asperger le propitiatoire. C'est une image de du pardon de Dieu pour les péchés, pour la rébellion de ce peuple que Dieu a appelé à part le peuple d'Israël, le propitiatoire qui était au-dessus, c'est écrit dans le verset 5, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, ça représentait la présence de Dieu, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le mot propitiatoire signifie satisfaction. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc c'était le couvercle orné, qui ornait l'arche de l'Alliance et fait avec les dessins des chérubins dessus pour représenter la présence de Dieu. Et le sang du sacrifice qui a été aspergé dessus pour le pardon du péché, le jour des expiations, un jour par an. Tout cela est écrit aussi dans Exode chapitre 25. Mais tout cela représente la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice à l'égard de son peuple. Il faut dire que dans tout le tabernacle, c'était ce mobilier qui était surtout le plus important, parce que c'est le sang de ce propitiatoire qui représente l'œuvre de Christ, surtout dans Romains chapitre 3 et les versets 25 et 26. C'est écrit en ce qui concerne Christ et comment par lui le peuple de Dieu est gratuitement justifié, verset 24, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rappelons-nous que ces sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché. Mais c'est lorsque Christ est venu, c'est là que tous les pécheurs de tout temps que Dieu avait élu avant les temps éternels, c'est pas pour tous les êtres humains, mais les élus, c'est dans ce même endroit, par ce même sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, que leurs péchés ont été ôtés et qu'ils étaient gratuitement justifiés. Et c'est là le verset 25 qui dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Pour ceux qui croiraient, qui doivent croire si ce n'est ceux que, pour qui Christ est mort et qu'il attire par son esprit. C'est afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant au temps de sa patience dans l'Ancien Testament. Toutes ces cérémonies représentaient la patience de Dieu, une couverture de leur péché. Mais ça ne pouvait pas ôter le péché. C'est le sang de Christ qui a ôté le péché et grâce à ce sang versé, à ce moment-là, il a accompli tout ce qui est écrit de lui. C'est écrit ici dans Romains 3, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent. C'est-à-dire depuis la foi, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ah, quelle Gloire, quelle joie de pouvoir contempler comment le tabernacle représente l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons devoir nous arrêter là. Je n'ai pas pu continuer, mais Dieu voulant, nous allons reprendre à partir du verset 6 la prochaine fois. Alors que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre pour la gloire de son Fils unique. Amen.